et quelques bienséances à respecter lors de l'étude de ce livre. Donc on commence directement la parole de Cheikh Abd al-Razzaq, l'Abbad al-Badr Hafidahullah Ta'ala, pour l'introduction, et puis on ira en tout cas dans les premiers chapitres de Cheikh Zayd al-Binahdi al-Madkhali Hafidahullah en explication de l'Adab al-Mufrad, et ce sera les premiers passages sur l'importance de l'obéissance et de la bonté envers les parents. Donc Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr Hafidahullah Ta'ala, il dit: فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق المبارك الذي هو هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. ونحن أيها الإخوة الكرام بصدد دراسة كتاب عظيم ومؤلف قيم ومصنف مبارك في الأدب أدب الشريعة وخلق الإسلام الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Donc Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr حفظه الله تعالى, car le Bukhazer il dit en guise d'introduction de son explication de l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari qu'Allah lui fasse miséricorde, et on va expliquer pourquoi ce livre s'appelle l'Adab al-Mufrad inshallah dans ce cours-ci inshallah. Et donc il dit حفظه الله تعالى: nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il nous comble tous par la science bénéfique et l'action vertueuse, et qu'il nous comble par les nobles manières et le comportement béni qui sont la voie de notre exemple et de notre modèle, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet duquel notre Seigneur le Très-Haut a dit, dont la traduction du sens est: et tu es certes d'une moralité éminente. Et c'est la traduction du verset 4 de Surat Al-Qalam. Et nous sommes, ô nobles frères, dans le processus d'étudier un livre sublime et un ouvrage précieux et un écrit béni au sujet du comportement. Le comportement de la législation et le comportement de l'islam auquel nous a appelé notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa manzilatu hadha al-kitab anna jami'ahu imam mashhur wa 'alam jalil wa muhaddiq ala huwa al-imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail rahimahullah sahib as-sahih wa kitabu hadha سمي الأدب المفرد لأنه أفرده في الأدب زيادة على كتابه الأدب الذي ضمنه كتابه الصحيح. وليعلم أن هذا المصنف ليس كتاب الأدب الذي هو من ضمنه كتابه الصحيح, وإنما هو مصنف أفرده رحمه الله مستقلا في بيان أدب الشريعة وخلق هذا الدين العظيم. وإن كان هذا الكتاب المفرد في الأدب يشترك مع كتاب الأدب المضمن في كتاب الصحيح صحيح البخاري, إلا أنه يزيد عليه زيادات كثيرة ومهمة وعظيمة من حيث سياقه رحمه الله لجملة من الروايات وعقده لعدد من الأبواب الزائدة على ما في كتاب الأدب من صحيحه, وأيضا من حيث الآثار الكثيرة التي ضمنها وساقها في كتاب الأدب المفرد. Donc ici, il va expliquer, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, comme on l'a dit, pourquoi l'Adab al-Mufrad, il s'appelle l'Adab al-Mufrad, et quel est ce livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et il dit, et le statut de ce livre est que son auteur est un imam célèbre, une illustre célébrité et un savant du hadith doté d'expertise, un muhaddith muhaqqiq, et c'est l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismail, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'auteur de l'authentique, l'auteur de Sahih al-Bukhari. On l'appelle Sahih al-Bukhari parce que c'est l'imam al-Bukhari qui a écrit le Sahih. Et cet ouvrage-ci, qui est le sien, a été appelé l'Adab al-Mufrad. Il faut bien comprendre ici, c'est ce que va expliquer le Cheikh, c'est que l'Adab al-Mufrad, c'est de l'imam al-Bukhari, le Sahih est aussi de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, mais que l'Adab al-Mufrad, c'est un livre dans le comportement qui n'est pas le chapitre ou le livre qui concerne les bienséances et le comportement qui se trouve dans Sahih al-Bukhari. Et c'est exactement ce qu'il dit le Cheikh ici. Il dit, et cet ouvrage-ci qui est le sien a été appelé l'Adab al-Mufrad car il l'a écrit à part, afradahu, d'où le mot Adab Mufrad. Il l'a écrit à part dans le comportement en plus de son livre l'Adab qui se trouve dans son authentique. Et donc il faut savoir que cet ouvrage n'est pas le livre l'Adab qui se trouve dans son livre l'authentique, dans le Sahih. Mais c'est un ouvrage qu'il a écrit à part, afradahu anis Sahih, qu'Allah lui fasse miséricorde, indépendamment dans la mise en évidence du comportement de la législation et les bienséances de cette sublime religion. Et ce même si ce livre indépendant de l'authentique s'associe au livre d'Al-Adab, qui se trouve dans l'authentique d'Al-Bukhari. Sauf qu'il y a des rajouts nombreux et importants, car il y a rapporté de nombreuses narrations et il y a écrit de nombreux chapitres en plus de ce qui se trouve dans son livre Al-Adab, qui se trouve dans son Sahih, dans son authentique. Et aussi en termes de nombreux athar qu'il a inclus et a rapporté dans son livre Al-Adab Al-Mufrad. Puis maintenant il va parler du sujet en tant que tel, de l'adab et de l'importance de ce sujet-là dans notre religion. Donc Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidahullah ta'ala, il continue en disant وموضوع الأدب أدب الشريعة أو أدب الشريعة من حيثه كان محل عناية أهل العلم في قديم الزمان وفي حديثه وهذا يظهر من كثرة المصنفات والمؤلفات المختصرة والمطولة والمنظومات العديدة التي كتبها أهل العلم في الأدب بل من عظيم عنايتهم بالأدب أنه ما من فن من الفنون وجانب من الجوانب أو من جوانب الشريعة إلا وأفرد أفرد فيه بعض المصنفات التي تختص ببيان الآداب المتعلقة به كآداب الطعام مثلا وآداب السفر وآداب المجالسة وآداب طلب العلم إلى غير ذلك من الآداب التي دعت إليها شريعة الإسلام. Et le sujet du comportement dans la législation en tant que tel, est un sujet auquel les gens de science donnaient de l'importance anciennement et y donnent de l'importance aujourd'hui. Et cela apparaît dans beaucoup d'ouvrages et d'écrits concis et longs et dans les nombreux poèmes que les gens de science ont écrits dans le comportement. Mais de plus fait partie de la grande importance qu'ils donnent au comportement qu'il n'y a pas une science parmi les sciences ni un domaine parmi les domaines de la religion sans qu'ils y aient écrit, à part des ouvrages qui traitent de manière spécifique la mise en évidence des bien-sciences qui y sont liées, comme les bien-sciences à respecter lorsqu'on mange, et les bien-sciences à respecter lorsqu'on voyage, et les bien-sciences à respecter lorsqu'on s'assoit, et les bien-sciences à respecter lors de l'acquisition de la science, et autres parmi les bien-sciences auxquelles la législation de l'islam a appelé. Puis cher, il va définir c'est quoi l'adab. C'est quoi le comportement justement. Il dit... والأدب خلق يكون في الإنسان يدفعه إلى ما يحمد من الأقوال والأعمال ولهذا قيل في تعريف الأدب أنه استعمال ما يحمد من الأقوال والأعمال وقيل أيضا في تعريفه استعمال مكارم الأخلاق في تعاملات الإنسان والأدب كما بين أهل العلم يكون مع الله عز وجل ويكون مع رسوله عليه الصلاة والسلام ويكون مع عباد الله المؤمنين كلهم بحسب مقامهم أو مقامه وحاله وأعظم الأدب الأدب مع الله جل وعلا بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه والبعد عن ما نهى عنه وحذر عباده منه. Maintenant le cheikh va définir l'adab et ce serait bien que si les frères les soeurs pouvaient prendre des notes. Je sais que inshallah je mettrai les notes de ces cours. Inch'Allah, normalement, il devrait y avoir 3 PDF qui suivront ce cours, Inch'Allah, ce soir ou demain sur notre site spfbirmingham.com. Mais il est important quand même qu'on essaie de prendre des notes. Comme il est dit, Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. C'est-à-dire que le fait que la science est une proie et le lien ou le câble qui nous permet d'obtenir, d'attraper cette proie, ben c'est ça, c'est son écriture. Pourquoi ? Parce qu'il va donner des définitions de l'adab. Et ces définitions très courtes, très faciles à mémoriser, très faciles à s'en rappeler et qui sont très importantes. Il dit, l'adab est un comportement qui se trouve dans la personne qui le pousse vers ce qui est louable parmi les paroles et les actions. Regardez comme c'est court, comme c'est bien dit et comme c'est facile à retenir. L'adab est un comportement qui se trouve dans la personne qui le pousse vers ce qui est louable parmi les paroles et les actions. Et c'est pour cela qu'il fut dit, quant à la définition de l'adab, que c'est l'utilisation des nobles comportements dans les relations de l'individu. L'utilisation des nobles comportements dans les relations de l'individu. Et l'adab, comme l'ont expliqué les gens de science, est envers Allah le Très-Haut. Et il est envers son messager, alayhi salatu salam. Et il est envers les serviteurs d'Allah croyants, chacun en fonction de son... Et le comportement le plus important est le comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. en étant pudique envers lui, et en le craignant, en se créant public, et en étant sérieux, et en faisant des efforts dans le fait de lui obéir. Biljid wal ijtihad. En étant sérieux, en faisant des efforts dans le fait de lui obéir. Et dans ce qui rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. Et en s'éloignant de ce qu'il a interdit, et de ce contre lequel il a mis ses serviteurs en garde. Puis le shirk continue en disant, Wallahu jalla wa ala, la ya'muru ibadahu illa bima fi khair, wa salahu lahum. وَلَا يَنَا عِبَادَهُ إِلَّا عَنْ مَا فِيهِ شَرٌ وَضَرَرٌ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فمن الأدب مع الله عز وجل الحياء منه ومراقبته وقيامه بطاعته ومجانبة ما يسخطه تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال. Et Allah, le très haut, nous redonne à ses serviteurs, ça c'est un point très important dans notre croyance ici, et Allah, le très haut, nous redonne à ses serviteurs que ce dans lequel il y a le bien et la vertu pour eux. Et ils ne les mettent en garde que contre ce dans lequel il y a un mal et un préjudice pour eux, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc fait partie du comportement envers Allah le Très-Haut d'être pudique envers lui, subhanahu wa ta'ala, et de le craindre, et de s'acquitter de son obéissance, et de s'écarter de ce qui cause sa colère parmi les paroles et les actions. Puis après avoir parlé du comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, le shir parle maintenant du comportement envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « وَمَا الْأَدَمَ عَلَى الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam » فتحكيمه عليه الصلاة والسلام وجعله قدوة وأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن لا يتقدم بين يدي قوله بقول أو عمل فلا يفعل حتى يأمر ولا يقول حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون متقيدا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله في حركاته وسكناته بحيث يكون عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له فيما يأتي ويذر. L'adab ma'annas, après le shir va parler de l'adab ma'annas, le comportement envers les gens. D'abord le comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après le comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le shir, quant au comportement, et d'abord j'ai oublié une partie en français sur le comportement envers Allah, et donc fait partie du comportement envers Allah le Très-Haut d'être pudique envers lui, et de le craindre, et de s'acquitter de son obéissance, et de s'écarter de ce qui cause sa colère parmi les paroles et les actions. Quant au comportement vers le messager, alayhi salatu wassalam, c'est de retourner à son jugement, sallallahu alayhi wa sallam, et de le prendre comme exemple et comme modèle. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est, en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, sourate l'Ahzab verset 21, jusqu'à la fin du verset. Et de ne pas le devancer, alayhi salatu wassalam, ni par une parole, ni par une action, et donc de ne pas faire tant qu'il n'a pas ordonné, et de ne dire que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc qu'il soit conditionné de ce qui était rapporté de lui, alayhi salatu wassalam, dans ses paroles et dans ses actions, dans ses mouvements et dans son immobilité, en le prenant, alayhi salatu wassalam, comme un exemple et un modèle pour lui dans ce qu'il fait et dans ce qu'il délaisse. والأدب مع الناس ومع عباد الله يكون بما أو بمعاملتهم كل منهم بحسب مقامه وبحسب قدره ويتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة وطيب المعاملة بحسب مقامهم وبحسب حالهم ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه هذا بر الوالدين مشيرا بذلك إلا أن الوالدين أحق الناس وأولاهم بكريم الأدب وجميل الصحبة وحسن المعاملة كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه إن شاء الله تعالى. Après le comportement vers Allah subhanahu wa ta'ala, le shir a cité le comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il a cité le comportement avec les gens ou envers les gens. Il dit le comportement avec les gens et avec les serviteurs d'Allah est de se comporter envers eux chacun en fonction de son statut et chacun en fonction de son degré. Et ils sont de différents niveaux en ce qui concerne leurs droits, en termes de comportement et en termes de bonne compagnie et de bonnes relations. Et cela en fonction de leur statut et en fonction de leur situation. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme on va le voir dans le livre, Inch'Allah, qu'on va commencer aujourd'hui, a commencé ce livre-ci par la bonté envers les parents, indiquant par cela que les parents sont ceux parmi les gens qui sont les plus en droit et les premiers en droit en termes de noble comportement et de bonne compagnie et de bonnes relations, comme cela sera clarifié et expliqué dans le premier chapitre à venir, Inch'Allah. ومن الأدب آداب الشريعة المتعلقة بالأحكام والعبادات، آداب الوضوء وآداب الصلاة وآداب الذكر وآداب المعاملة وآداب طلب العلم إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كثيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أشير تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب عشت معه سنوات قدرها قرابة 9 سنوات في درس مع طلاب الجامعة، أمضينا في دراسة هذا الكتاب والتعرف على مضامينه والوقوف على جوانب ما فيه من كريم الأخلاق وعظيم الآداب. فوقفنا على هذه الأبواب العظيمة المباركة بابا بابا، حديثا حديثا، أثرا أثرا، نقف عند كل باب نتأمل وفي الأحاديث وفي الآثار ودلالاتها، ومن يعينه الله تبارك وتعالى على الصبر على دراسة هذا الكتاب والوقوف على أبوابه العظيمة والتقريرات المباركة التي تتضمنها فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا كثيرا. Le cheikh dit parmi les bienséances de la législation islamique liées au jugement et aux actes d'adoration, les bienséances lors des ablutions, et les bienséances de la prière, et les bienséances du dhikr, et les bienséances dans les transactions, et les bienséances lors de la recherche de la science, et autres parmi les bienséances importantes. Et l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait des efforts dans ce livre béni, dans lequel il a regroupé un grand nombre, une quantité bénie, de bienséance de la législation et des nobles et sublimes comportements en islam auxquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Et je voudrais attirer l'attention, Cheikh Abdelrazak il dit hafidahullah, et son guise de proclamation de bienfaits de notre Seigneur, sur le fait que j'ai vécu avec ce livre des années, près de 9 ans, dans un cours avec des étudiants de l'université de Médine. Nous avons passé ce temps à étudier ce livre et à faire connaissance avec son contenu, et à nous arrêter sur ce qu'il contient comme noble comportement et sublime bienséance. Et donc nous nous sommes arrêtés sur ces chapitres sublimes et bénis, chapitre après chapitre, hadith après hadith, athar après athar. Nous nous arrêtions à chaque chapitre méditant au sujet des hadiths et des athars et de leur sens. Et celui, écoutez bien cette phrase mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qu'Allah le Très-Haut aide à être patient quant au fait d'étudier ce livre et à s'arrêter sur ces chapitres sublimes et les points bénis qui s'y trouvent, alors il obtiendra avec la permission d'Allah beaucoup de bien. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الأدب عنوان فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، فما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. قد قال عليه الصلاة والسلام أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئل أي شيء يكثر دخول الجنة أو أعظم ما يدخل به الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. فالآدم في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى آداب الإسلام وأخلاق الإنسان استعان بالله تبارك وتعالى، إذا وفق لمعرفتها استعان بالله تبارك وتعالى لتحقيقها، نال خيرا كثيرا وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. Et les savants, qu'Allah le Très-Haut leur fasse miséricorde, ont dit: le bon comportement est certes l'adresse de la félicité de l'individu et de son bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Regardez les ulama comment ils ont expliqué, comment ils ont décrit le bon comportement. Ils ont dit: le bon comportement est certes l'adresse de la félicité de l'individu et de son bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Combien de bonnes choses ont été obtenues par ce genre de noble comportement et de noble bienséance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là on va citer quelques hadiths qui vont nous inciter inshallah ta'ala à apprendre le bon comportement et le mettre en application. Mais ce n'est qu'un petit nombre de hadiths parmi les nombreux hadiths qui existent à ce sujet. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: les plus proches de moi parmi vous le jour du jugement dernier sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous fassions parmi ces gens-là. Et alayhi salatu wasalam il a dit: je n'étais envoyé que pour parachever les bons comportements. Il lui fut demandé, quelle chose augmente l'entrée au paradis? Ou la chose la plus importante par laquelle les gens entrent au paradis? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la piété envers Allah et le bon comportement. Taqwallah wa husnul khuluq. Le bon comportement a donc son haut statut et son degré élevé dans la législation de l'islam. Et donc, s'il est facilité aux musulmans d'avoir les bons comportements de l'islam et les bienséances de l'individu, qu'il a demandé l'aide d'Allah le Très-Haut, et on va revenir sur ce point-là plus tard, inshallah, dans le cours, s'il lui est facilité de connaître ses bons comportements, qu'il a demandé l'aide d'Allah le Très-Haut afin de les concrétiser, il aura alors obtenu un grand bien et une large préséance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le cheikh, il va faire une série de conseils maintenant, en commençant en disant أحب أن أنبه بين يدي دراسة هذا الكتاب إلى نقاط أحب لنفسي ولإخواني أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن بصدد دراسة هذا الكتاب المبارك. الأمر الأول. شيخ الدين حفظه الله تعالى. Et je voudrais attirer l'attention dans le cadre de cette étude, de ce livre, sur des points au sujet desquels j'aimerais pour moi-même ainsi que pour mes frères qu'ils nous soient présents à l'esprit. Alors que nous sommes à même d'étudier ce livre béni. Le premier point. الأمر الأول أن نصحح النية في دراستنا له والنية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها فإذا صححت النية بورك في العمل وبورك في الجلوس وبورك في العلم وبورك في الطلب وتحقق الأثر ووجدت الثمرة وتصحيح النية أن ينوي من جلس لدراسة هذا الكتاب بجلوسه أن يعرف أولا آداب الشريعة وأخلاق الإسلام وأن يتعرف عليها وأن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها ثم ثانيا أن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب والقيام بها ويجاهد نفسه على هذا الأمر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ثم ينوي أيضا نشر هذه الآداب بين الناس أولا في اتصافه بها هو فيكون قدوة للناس في الأدب والخلق وأيضا بالدعوة دعوة الناس إلى آداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة وهذه النية الفاضلة الكريمة التي أشير إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Le premier point que le cheikh nous rapporte ici en guise de conseil et qu'on doit garder à l'esprit inshallah ta'ala lors de l'étude de ce livre, le premier point, que notre intention soit correcte dans notre étude de ce livre, car l'intention peut être gâtée, endommagée, parce qu'il peut la gâter comme dessein et chose qui la trouble. Et donc si l'intention est corrigée, sincère, alors l'action est bénie, et l'assise est bénie, et la science est bénie, et la recherche de la science est bénie, et les résultats se concrétisent, et on en trouve les fruits. Et la correction de l'intention est qu'il est pour intention dans son assise, afin d'étudier ce livre, que cette assise est en premier afin qu'ils connaissent les bienséances en islam et les bons comportements en islam, et qu'il en prenne connaissance et qu'il s'allège de l'ignorance lui-même quant à ce qu'il en ignore, puis deuxièmement qu'il combatte sa propre âme à concrétiser ses bienséances et à s'en acquitter, et qu'il combatte sa propre âme à ce sujet. Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Surat Al-Ankabut, verset 69. Et pour les frères et sœurs qui veulent avoir plus de détails sur ce verset, je recommande vivement qu'ils retournent au livre de Tafsir, comme Tafsir Imam Sa'di, rahimahullah, et d'autres, parmi les Tafsir Salafi, les exégèses du Coran, faits par des savants Salafi, car il y a beaucoup de fawaïd à tirer de ce verset et des autres versets. Et un salafi se doit de donner de l'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en termes de lecture, de mémorisation, et aussi d'exégèse et de compréhension du sens de ces versets. Ensuite, qu'il ait aussi l'intention de propager ses bienséances au sein des gens. Premièrement, en se parant lui-même de ses bienséances, afin qu'il soit un exemple pour les gens en termes de bon comportement et de bienséance, et aussi en appelant les gens au bienséance de la religion et ses nobles comportements. Et cette intention noble et vertueuse qui était indiquée, nous la voyons claire dans les délégations qui venaient chez le prophète alayhi salatu wassalam. Je répète cette phrase en arabe parce que je l'avais coupée, pour que ce ne soit pas trop long. Le cheikh il a dit: وهذه النية الفاضلة الكريمة التي أشير إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Vous allez voir encore des exemples de différence de compréhension entre la compréhension des gens de science et la nôtre, subhanallah, comment ils comprennent les gens de science les textes de la législation. Il dit donc le cheikh: كانت تأتي هذه الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة دين الله تبارك وتعالى. خذوا مثالا على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس لما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام فمرنا بقول فصل. انظروا إلى شيخ باليسي، انظروا إلى هذه النية المباركة التي انطوت عليها قلوبهم. قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا غرضهم، غرضهم أن يدخلوا الجنة بالقول الفصل الذي يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والغرض الآخر أن يبلغوه من وراءهم من الناس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك. الشيخ كيباليسي c'est toujours la parole. تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك والشرع الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ودعاك إليه، وأن ترفع هذا الجهل عن غيرك بأن تكون ناصحا، الشيخ كبار عبد الرزاق، بأن تكون ناصحا وموجها ومعلما، ولا تؤخره البيان عن وقت الحاجة، ولا تؤخر البيان ولا تؤخره البيان عن وقت الحاجة. ما تسمعه من الآداب سارع في نشره، اعمل به وسارع في نشره. شيخ الدي حفظه الله تعالى، merci de donner des nouvelles pour rapport au son de temps en temps, barakallahu fikum. Il dit: ces délégations qui venaient chez le prophète alayhi salatu wassalam afin de connaître la religion d'Allah le Très-Haut. Et là il parle de l'intention. Il dit: regardez, prenez un exemple à ce sujet. Ce qui était rapporté dans les deux authentiques, c'est un hadith très connu, dans le récit de la délégation de Abd al-Qais, qu'on appelle Wafd Abd al-Qais, hadith Wafd Abd al-Qais, hadith sur la délégation d'Abd al-Qais. Lorsqu'ils sont venus chez le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit: il y a entre toi et nous le quartier des mécréants de Mudar, et nous ne pouvons venir chez toi que pendant ce mois sacré. Ordonne-nous donc par une parole décisive. Cheikh Abd al-Razzaq il dit: regarde donc cette intention bénie sur laquelle se sont noués leurs cœurs. Ils ont dit: ordonne-nous donc par une parole décisive au sujet de laquelle nous informerons les gens qui seront derrière nous, qui sont derrière nous, pardon, c'est-à-dire les gens qu'ils ont laissés derrière eux en venant chez le prophète alayhi salatu wassalam, et par laquelle nous entrerons au paradis. Cheikh il dit: tel était donc leur but. Leur but était d'entrer au paradis par cette parole décisive qu'ils entendent du messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam. Mais l'autre but est de la transmettre aux gens qui sont derrière eux. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: rien n'égale la science si l'intention est correcte. Il fut dit: et comment est-elle correcte? Comment est وما صلاحها؟ Il répondit, عليه رحمة الله imam أهل السنة, l'imam des gens de la sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam al-Mubajjal, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, que tu aies pour intention par la science de t'alléger toi-même de cette ignorance ainsi qu'autrui. Que tu aies pour intention par la science de t'alléger toi-même de cette ignorance en connaissant ta religion et la législation qu'Allah le Très-Haut t'a ordonnée et à laquelle il t'a appelé, et que tu allèges autrui de cet état d'ignorance en faisant le conseil et en orientant et en enseignant, et que tu ne lui retardes pas la clarification après le temps où le besoin s'en fait. Ce que tu entends comme bienséance, précipite-toi à les diffuser et mets-les en pratique et précipite-toi à les propager. إذا ذهبت إلى بيتك علم أولادك وعلم إخوانك وعلم من استطعت ومن بركتي أو من أسباب بركة العلم بدله ونشره وتعليمه، والله عز وجل يجازي المحسن من عباده الناصح لهم السعي في نشر الخير بينهم، يجازيه بمثل ذلك أضعافا مضاعفة، تثبيتا له على دينه وحفظا له وتأييدا ودفاعا عنه إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة أيضا. ذكر بين يدي دراسة هذا الكتاب بأهمية الدعاء، Le cheikh va parler de l'importance, en tant que deuxième point, de la vocation et l'importance de la vocation. D'abord, on termine ce premier point, ce premier conseil du cheikh, hafidhahullah ta'ala, concernant l'intention. Il dit, si tu vas chez toi, apprends-les à tes enfants, c'est bien science. Et apprends-les à tes frères, et apprends-les à ceux que tu peux. Et fais partie de la bénédiction de la science, ou des causes de la science, que tu la donnes, et que tu la propages, et que tu l'enseignes. Et Allah le Très-Haut rétribue le bienfaiteur parmi ses serviteurs, celui qui leur fait le conseil et qui s'attache à propager le bien parmi eux. Il le rétribue à la hauteur de cela en lui multipliant de nombreuses fois et en l'affermissant sur sa religion et en le préservant et en l'assistant et en le défendant et autres parmi les fruits et les résultats bénis. Puis le cheikh dit aussi, je rappelle dans le cadre de l'étude de ce livre, et c'est le deuxième point, l'importance de la vocation. سل الله تبارك وتعالى أن يعينك فأنت مهما تعلمت من الآداب ومهما درست من الأخلاق ومهما وقفت على مكارم الآداب لا تستطيع أن تقوم بشيء منها إلا إذا أعانك الله وذلك الأمر ودلل لك الأمر ويسره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال من أراد أن يبالغ في الدعاء فليقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي كما أنها دعوة يؤتى بها أدبار الصلوات فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت يطلب الإنسان عون الله جل وعلا. Demande à Allah le Très-Haut qu'il t'aide, car quoi que tu apprennes comme bienséance, et quoi que tu apprennes comme bon comportement, et quoi que tu lises comme noble comportement, tu ne peux t'acquitter de quoi que ce soit parmi ces nobles comportements que si Allah le Très-Haut t'aide et qu'Allah te l'a facilité. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son bien-aimé Mu'adh dans ce hadith, oh Mu'adh, je t'aime pour Allah. Ne délaisse pas de dire, après chaque prière, « Oh Allah, aide-moi à t'évoquer et à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. » Par rapport, ou peut-être que les frères et sœurs qui ont une question par rapport au fait de dire après chaque prière, est-ce qu'on doit le dire à la fin de la prière, avant le teslim ou après le teslim? On va y revenir, Inch'Allah, parce que Cheikh Zayd, il en parle dans l'Adab Mufrad al-Bukhari, Inch'Allah. On en reparlera à ce moment-là, Inch'Allah, Ta'ala. « Oh Allah, aide-moi à t'évoquer » et à te remercier et à t'adorer de la meilleure de manière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il était rapporté de manière authentique de lui, alayhi salatu wasalam, qu'il a dit que celui qui veut faire des efforts dans la vocation dise, oh Allah, aide-moi à t'évoquer et à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Cette invocation, comme elle est dite après les prières, elle est aussi dite de manière absolue, sans restriction de temps, et est dite en tout temps. L'individu demande par cette invocation l'aide d'Allah le Très-Haut. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم كما في الصحيح لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقد جاء عن طاووس بن كيسان وهو من علماء التابعين أنه قال إن هذه الأخلاق وهائب أي هبات من الله وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده وهبه منها. فإذا مع التعلم والمدارسة والمذاكرة والوقوف على آداب الشريعة يسأل المسلم ربه أن يعينه على تحقيق ذلك والقيام به على أتم حال وأحسن حال. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. وصح عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحديث ثابت بدون تقييد أو بدون تقييده بالنظر إلى المرآة. Les compagnons qu'Allah le Très-Haut les agrée tous disaient dans leur poème de Rajaz, comme c'est rapporté dans l'authentique, si ce n'était qu'Allah nous a guidés, nous ne serions pas guidés, et nous n'aurions pas jeûné, et nous n'aurions pas prié. Il a été rapporté de Taous ibn Kaysan, qui fait partie des savants des Tabi'oun, qui l'a dit, ces bons comportements sont des dons, c'est-à-dire des présents. C'est-à-dire, que ce sont des présents qu'Allah te donne. Allah le Très-Haut, lorsqu'il aime son serviteur, il lui en offre. Et donc en même temps qu'il apprenne et étudie et révise et lise au sujet des bienséances dans la législation, les musulmans demandent à Allah le Très-Haut qu'il l'aide à concrétiser cela et à s'en acquitter de la manière la plus complète et de la meilleure des manières. Il était rapporté de manière authentique de notre prophète alayhi salatu wassalam, qu'il disait dans son invocation, on devrait tous essayer de la mémoriser et d'essayer de la dire le plus souvent possible, inshallah. Oh Allah, guide-moi vers le meilleur des comportements. Nul ne guide vers les meilleurs comportements à part toi. Et éloigne de moi les mauvais comportements. Nul ne les éloigne si ce n'est toi. Il était rapporté de manière authentique qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, ou qu'il disait dans son invocation, alayhi salatu wassalam, oh Allah, comme tu as embelli mon apparence, embellis mon comportement. Et le hadith, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on doit le dire quand on se regarde dans le miroir. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a jugé faible cette restriction avec le miroir. Et le hadith est authentique sans la restriction de dire cette invocation lorsqu'on se regarde dans le miroir. Et il a aussi été rapporté de manière authentique qu'il, alayhi salatu wassalam, disait dans son invocation, وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء فإذا الحاجة ماسة إلى أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تحقيق الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وأن يعيدك من سيء الأخلاق ورديئها وأن يجنبك ذلك وأن يعيدك منه ويتلخص من ذلك باختصار. Puis Cheikh, il va rapporter en résumé les points qu'il a rapportés, les conseils qu'il a rapportés. D'abord, on traduit la partie juste avant. Il a été aussi rapporté de manière authentique qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son invocation, « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi des mauvais comportements et des passions. » Elle est contre les mauvais comportements, ou des mauvais comportements et des passions et des maux. Et donc la nécessité est grande que tu demandes à Allah le Très-Haut qu'il t'aide à concrétiser les nobles bienséances et les comportements complets et qu'il te préserve des mauvais et bas comportements et qu'il les écarte de toi et qu'il t'en préserve. Puis Cheikh va rapporter en résumé les conseils qu'il a rapportés dans l'étude de ce livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il dit « وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ بِاخْتِصَارٍ مُجَهَدَةُ النَّفْسِ عَلَى دِرَاسَةِ هَذِي الْأَخْلَاقِ وَالْآدَابِ » ومجاهدة النفس على تطبيقها والقيام بها. troisième point, المجاهدة للدعوة إليها وبيانها ونشرها. point numéro 4, الاستعانة بالله تبارك وتعالى وحده على تحقيق ذلك. ويجمع هذا كله قول نبينا عليه الصلاة والسلام, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأتوجه إلى الله سائلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بإتمام هذا الكتاب تعلما وفهما ودراسة, وأن يمن علينا أيضا بتحقيق ما فيه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة, وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو, وأن يعيدنا من سيئها ومن سيء الأخلاق لا يعيدنا منه إلا هو ومنها إلا هو, ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما, وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Et donc la nécessité est grande que tu demandes à Allah le Très-Haut qu'il t'aide à concrétiser les nobles bienséances et les comportements complets, et qu'il te préserve des mauvais et bas comportements, et qu'il les écarte de toi et qu'il t'en préserve. En résumé, ici il va citer quatre points le shir: combattre l'âme afin d'étudier ces bienséances. Deuxième point, combattre l'âme afin de les mettre en pratique et de s'en acquitter. Troisième, lutter afin d'y appeler et de les expliquer et de les diffuser. Quatrième, demander l'aide à Allah seul qui l'aide à concrétiser cela. Et tout cela est regroupé dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam: sois diligent quant à ce qui t'est utile et demande l'aide à Allah et ne sois pas paresseux. Puis le shir termine par une série de doua, cette introduction, et je m'oriente vers Allah lui demandant par ses noms exemplaires et ses attributs qu'il nous comble nous tous par le fait de compléter ce livre en termes d'études et de compréhension et d'apprentissage, et qu'il nous comble aussi par le fait de concrétiser ce que ce livre contient comme comportement parfait, et noble bienséance et qui nous guide vers les meilleurs comportements. Nul ne guide vers les meilleurs comportements à part lui, et qu'il nous préserve des mauvais comportements. Nul nous en préserve à part lui. Et nous lui demandons, exalté soit-il, de nous préserver des comportements abominables et des passions et des maux, et qu'il nous guide vers lui par un chemin droit, et qu'il nous préserve de nos propres maux et de nos mauvaises actions. Il est celui qui entend les invocations et celui qui en est digne, qui est digne qu'on espère en lui. Il est celui qui entend les invocations et celui qui est digne qu'on espère en lui, et il nous suffit et il est notre meilleur garant. Après cette introduction que j'ai voulu vous rapporter de Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, parce que je trouvais qu'elle était judicieuse avant d'étudier ce livre, on commence maintenant le livre de Cheikh Zayed ibn Hadi al-Madkhali, et on ne va pas rentrer trop loin dans le livre. Inch'Allah, on va peut-être les deux premiers chapitres, et c'est très court, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de traduire ce livre, par mon amour pour ce livre d'abord, et que l'importance de ce livre, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Et le Cheikh qui l'a expliqué, c'est la savant Salafi, il l'expliquait d'une manière magnifique, très simple, accessible à qui que ce soit. Jazakallahu khair al-jaza, et qu'Allah récompense en bien l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala et tous les ulama de la sunna pour leur travail qu'ils font. Donc Cheikh Zayed ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah, il commence son livre en disant: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah al-malik al-haq al-mubin, sallallahu sallam ala, wa barik ala nabiyyina Muhammadin imam al-muttaqin, wa khatam al-mursalin, wa sadiq al-masduq al-amin, amma ba'd, faqad talaba minni fi muddatin madat, nukhbatun min talabat al-ilm, an-nabihin, an udarrisahum kitaban min kutub al-sunnat al-mutahara, yajtami'un ala al-ahkam al-shar'iyyati wal-fawaid al-muhimma al-jaliyya, lati turshidu ila ahsan al-akhlaq wal-adab, wa tuhadziru min adadadiha. فوجدنا أن كتب السنة الصحيحة كلها تتضمن ذلك كله، فوقع اختيارنا على دراسة الأدب المفرد لسهولته وصغر حجمه بالنسبة للسنن الأخرى، ولوجود كتب من سبقنا إلى العناية به سندا ومتنا. وقد اقتصرت في شرحي للأدب المفرد على الأحاديث الصحيحة منها، وقد اعتمدنا على أحكام الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الأدب المفرد. Ça c'est quelque chose que je souligne dès le début, c'est qu'en fait l'Adab Mufrad, Cheikh Al-Albani رحمه الله, il a corrigé, il a fait le tahqiq de ce livre-là, parce que l'imam Bukhari رحمه الله, il n'a pas mis pour les hadiths de l'Adab Mufrad les conditions qu'il a mis dans son authentique. Donc l'imam Bukhari, l'imam Cheikh Al-Albani رحمه الله, il a fait le tahqiq de cela et on est sorti صحيح الأدب المفرد et ضعيف الأدب المفرد. Et ce qu'on explique ici en traduisant l'explication de Cheikh Zayed, eh bien c'est صحيح الأدب المفرد de l'imam Al-Albani رحمه الله تعالى. Et c'est ce qu'explique Cheikh Zayed justement lui-même. لأن ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه الغنية والسداد عما فيه ضعف. ومن ناحية أخرى فإن دروس المساجد يحضرها المتعلم وغير المتعلم، فكونهم لا يسمعون إلى الأحاديث الصحيحة أزكى لهم. فاستمرت الدراسة المسائية لنصوصه وسجلت التعليقات ودونت في أوراق من قبل المحبين لعلوم الشريعة ووسائلها، ومنهم القائمون على دار الميراث النبوي للنشر والتوزيع بالجزائر، جعلنا الله وإياهم من ورثه علما وعملا ودعوة وجهادا. وأرسلت إلي الأوراق للنظر فيها وإضافة ما يحتاج إلى إضافة وحذف ما كان مكررا كغيره من كتب المنثورة، ولا يحتقر من الخير والمعروف شيء. وعدته للمطبعة المذكورة سامحا بطبعه ونشره كغيره من الكتب التي أذنت لدار الميراث النبوي بطبعها ونشرها، وقد سميت تعليقات هذه عون الأحد الصمد شرح الأدب المفرد. Qu'est-ce que dit Cheikh Zayed ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala en guise d'introduction de son explication de l'Adab al-Mufrad qu'il a lui-même intitulé, comme on va le voir inshallah, A'un al-Ahad al-Samadi, Sharhu al-Adab al-Mufrad. Il dit: il y a un certain temps, une élite parmi les nobles étudiants en sciences islamiques m'ont demandé de leur enseigner un livre parmi les livres de la Sunna pure qui contient les jugements légiférés et les bénéfices importants qui guident vers les meilleurs comportements et les meilleures bienséances, et qui mettent en garde contre leur contraire. Et nous avons trouvé que tous les livres de la Sunna authentique contiennent tout cela. Notre choix s'est porté sur l'Adab al-Mufrad, en raison de sa facilité et de sa petite dimension par rapport aux autres Sunan, et en raison de l'existence des livres de ceux qui nous ont précédés en s'en occupant en termes de chaîne de transmission et de textes des Ahadith. Et je me suis limité dans l'explication de l'Adab al-Mufrad aux Ahadith qui en sont authentiques. Et nous nous sommes basés sur les jugements de l'imam Mohammed Nasser Dil Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Sahih al-Adab al-Mufrad, l'authentique de l'Adab al-Mufrad. Car il y a dans ce qui était rapporté de manière authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de quoi se passer de ceux dans lesquels il y a une faiblesse. Et d'un autre côté, assistent aux cours dans les mosquées ceux qui sont des étudiants et ceux qui ne sont pas des étudiants. Et donc le fait qu'ils n'entendent que les hadiths authentiques est plus pur pour eux. Et donc les cours le soir sur les textes d'Al-Adab al-Mufrad ont continué et les annotations ont été enregistrées et écrites sur des feuilles de la part de certains qui aiment les sciences légiférées et leurs moyens. Et parmi eux, les responsables de Dar al-Miras al-Nabawi pour la publication et la distribution qui se trouvent en Algérie. Qu'Allah fasse que nous soyons ainsi qu'eux parmi ceux qui sont ses héritiers au prophète alayhi salatu wassalam en termes de science et de mise en pratique et de prêche et de combat. Et ces feuilles m'ont été envoyées afin que je les revoie et que j'y ajoute ce qui est nécessaire d'être ajouté et de retirer ce qui se répète comme dans d'autres livres parmi mes livres écrits en prose, et on ne dédaigne rien de ce qui est un bien et de ce qui est convenable. Et je l'ai préparé pour la maison d'édition citée en autorisant son impression et sa publication au même titre que mes autres livres que j'ai autorisés à Dar al-Miras al-Nabawi de publier, et j'ai appelé ces annotations de ma part Aoun al-Ahad al-Samad, Sharh al-Adab al-Mufrad. Et je l'ai préfacé par mes paroles, puis le shir il cite ensuite un poème qu'il écrit en guise de préface du livre, voire pages 5 et 6 de la source précitée. Maintenant, on va s'attacher directement, on rentre dans l'Adab al-Mufrad al-Imam Bukhari. On n'a plus pour longtemps parce que ce sera assez court, Inch'Allah. Et il commence, comme il a dit Cheikh Abdelzar dans l'introduction, par les parents, et ce qui concerne les parents. Babu qawlihi ta'ala, wa wassayna l'insana biwalidihi ihsana. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هدي الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Donc qu'est-ce que dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son Adab al-Mufrad? Il dit chapitre de la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Abu al-Walid nous a dit, alors ici un petit point que je voudrais faire par rapport à Moussalah al-Hadith, c'est pas un cours de Moussalah mais c'est important je pense, que le mot utilisé ici c'est haddathana, et un peu plus loin dans la chaîne on va avoir le mot qui est Akhbarani. Alors, quand je reviendrai à Akhbarani, je vous expliquerai une petite différence entre les deux termes, Inch'Allah, pour être précis un peu dans la traduction, et c'est une faïda en plus dans le Mustalah al-Hadith. Donc, Abu al-Walid nous a dit, Haddathana, il a dit, Shu'ba nous a dit, il a dit, Al-Walid ibn al-Aizar m'a informé, c'est pour ça que j'ai dit Akhbarani, il a dit, j'ai entendu Abu Amr al-Shaybani dire, le propriétaire de cette demeure nous a dit, et il a fait un signe de la tête vers la demeure d'Abdullah. Alors, peut-être que les gens se posent qui est ce Abdullah, mais on va le voir, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu warda. Et il a dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la plus aimée des actions par Allah le Très-Haut. Il alayhi salatu wa sallam a dit, la prière en son temps. J'ai dit, et puis laquelle? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la bonté envers les parents. J'ai dit, puis laquelle? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le jihad sur le sentier d'Allah. Il dit, il m'a dit ces paroles, et si je lui avais demandé de rajouter, il m'aurait rajouté. Alors juste un point par rapport à Haddathana wa Akhbarana, ici on a Haddathana et Akhbarani. Sur l'Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il explique la différence entre les deux termes, Haddathana et Akhbarana, en disant, l'Ikhbar est plus général qu'At-Tahdith. Et regardez la précision des gens du Hadith. Celui qui a entendu le Hadith directement du Sheikh, il dit Haddathana. Tandis que s'il n'a pas entendu directement du Cheikh, mais qu'il lui a écrit, alors il dit par précision dans la parole « Akhbarana ». C'est-à-dire, même si c'est écrit, et donc le mot « Akhbarana » est plus général, et « Haddathana » est plus spécifique. Et donc « At-Tahdith » est plus spécifique qu'à l'Ikhbar, qui est plus général. Alors, une référence que je vous donne, voir la cassette numéro 34 de Fatawa Jeddah, du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Vous pouvez trouver notamment dans certains livres de Moussar al-Hadith, cette différence entre Haddathana, Akhbarana et ce genre de terminologie. Maintenant, l'explication de Sheikh Zayd. المراد بعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه الثلاثة التي تضمن هذا الحديث من أعمال البر التي من حافظ عليها وهو من أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة فقد حاز الخير بحذافيره. شيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله الذي بصنف عبد الله عبد الله بن مسعود كرا لغري. Et ces trois actions contenues dans ce hadith font partie des actes d'obéissance qui celui qui les préserve alors qu'il fait partie des gens de l'unicité, des gens de la croyance authentique, aura alors obtenu le bien tout entier. العمل الأول الصلاة على وقتها. ألا وإن مما لا شك فيه أن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال. والمراد بالصلاة الصلاة الصحيحة التي توفرت أركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هي أفضل الأعمال كما ورد في الحديث الآخر أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وفي رواية على أول وقتها. La première action qui cite dans ce hadith parmi les trois actions, la prière en son temps. Parmi les choses au sujet desquelles il n'y a aucun doute, c'est que la prière en son temps est la meilleure des actions. Et le sens de la prière est la prière correcte, qui réunit ses piliers et ses conditions et ses obligations de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Elle est donc la meilleure des actions. Comme cela a été rapporté dans l'autre hadith, l'action la plus aimée d'Allah est la prière en son temps. Et dans une autre version, au début de son temps. La deuxième action, hadith, l'amal al-thani, birrul walidain. Et ce qui concerne ce chapitre ici, وبر الوالدين كما تقدم من الفرائض والواجبات التي يجب أن يقوم بها الإبن ذكرا كان حيال والديه بقدر ما يستطيع امتثال أمرهما في المعروف والطاعة في وفي تجنب العقوق الذي يسيء به إليهما. وكم من وقت القرآن الكريم بذلك، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورة النساء. وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها من سورة الأحقاف. وقال سبحانه donc pour le verset سورة النساء le chiffre qui est là il est pas bon dans le, pour ceux qui ont le livre il est dans trois volumes de Dar al-Miras al-Nabawi comme on a dit c'est le premier volume page 7 le bon chiffre du verset c'est le numéro 36 si je ne me trompe pas. Donc le deuxième verset c'était le verset sur l'Ahqaf verset 15 wa qala subhanahu wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu hanan ala wahn min surati luqman le verset 14 wa wassa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi birri al-walidayn wa 'azzama al-amr wa qaddama al-qiyam bi haqq al-walidayn 'ala al-jihad fi ma'rakat al-qital faqad thabata anna rajulan ja'a ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam uridu an uqatila ma'ak qala ahayyun walidak ya'ni huma 'ala qayd al-hayah qala na'am qala fa fihima fajahid. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين وبرهما على الجهاد في سبيل الله لعظم أمر البر بالوالدين ووجوب القيام به على أعظم وجه وأحسن حال في الأفعال والأقوال ابتغاء مرضات الله الكبير المتعال. La deuxième action c'est le sujet de ce chapitre c'est la bonté envers les parents. Et la bonté envers les parents, comme nous l'avons vu, fait partie des prescriptions et des obligations au sujet desquelles l'enfant est obligé de s'en acquitter, qu'il soit un mâle ou une femelle, envers ses parents comme il le peut, en mettant en pratique leurs ordres dans ce qui est convenable, et en obéissant, et en s'écartant de leur désobéissance par laquelle il leur fait du mal à tous deux. Et comme les recommandations sont nombreuses dans le Coran à ce sujet, Allah le Très-Haut, ce dont la traduction du sens est « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé ». Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Sourate Nisa, verset 36. Et il dit, selon la traduction du sens est, « Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères, sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. » Sourate l'Ahqaf, verset 15. Et il dit, selon la traduction du sens est, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. » Sourate Luqman, verset 14. Et d'ailleurs, on a les recommandations de Luqman à son fils, Luqman le sage à son fils, de Sourate Luqman, il y a 50 bénéfices qui ont été tirés de ces recommandations-là par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr et elles sont entièrement traduites sur notre site spfbirmingham.com. Le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné la bonté envers les parents et a donné une grande importance à cette affaire et il a fait passer le fait de s'acquitter des droits des parents avant le jihad dans la bataille. Il a été rapporté de manière authentique qu'un homme est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a dit « Je veux combattre avec toi ». Il sallallahu alayhi wa sallam, a dit est-ce que tes parents sont vivants? C'est-à-dire, sont-ils toujours en vie? Il dit oui. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais le jihad dans la bonté envers eux deux. Et ce hadith rapporté par le Bukhari, numéro 3405-1972, et Muslim, numéro 2549, d'après Abdullah ibn Amr, car il les agrée tous deux. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un point important à retenir pour mes frères et sœurs, et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait passer l'obéissance aux parents et la bonté envers eux avant le jihad dans le sentier d'Allah, en raison de la grande importance de la bonté envers les parents, et de l'obligation de s'acquitter de cela de la meilleure des manières, et selon la meilleure situation, dans les actions et les paroles, en cherchant par cela la satisfaction d'Allah, le grand, le sublime. Le troisième acte, ici, العمل الثالث الجهاد في سبيل الله والجهاد يبدأ بجهاد النفس حتى تقيم أمر الله وتجتنب محارم الله وتفقه دين الله وتعمل به وتدعو إليه ثم الجهاد في معارك القتال متى دعا الداعي إلى ذلك تحت راية والي مسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله ودفع الظلم والبغي عن المسلمين والمسلمات. La troisième action, c'est le jihad sur le sentier d'Allah. Le jihad commence par combattre l'âme jusqu'à ce que tu t'acquittes de l'ordre d'Allah et que tu t'écartes de ce qu'Allah t'a interdit, et que tu comprennes la religion d'Allah, et que tu la mettes en pratique, et que tu y appelles. Puis ensuite le jihad dans les batailles, lorsque la raison s'en fait sous l'étendard d'un gouverneur musulman qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute, et de défendre les musulmans et les musulmanes contre l'oppression et l'injustice. D'accord ? Et quand... Si vous voulez savoir plus sur les conditions du jihad, etc., et que c'est, parmi les choses importantes à savoir au niveau du jihad, c'est que c'est les ulama de la Umma qui décrètent quand c'est jihad ou pas, c'est pas n'importe qui. Bien, je vous recommande Kitab Jihad Bulugh al-Maram, et c'est un chapitre qu'on avait fait dans une daura avec Cheikh Oubel Jabir et Hafidhahullah. Je dois avoir les audios quelque part, et pour les frères qui seraient intéressés, qu'ils me fassent savoir sur Twitter, et je les mettrai sur une Dropbox ou quelque chose comme ça, pour que vous puissiez profiter de ces audios-là. À l'époque, on en avait beaucoup profité, ça nous avait beaucoup aidé, bidnillahi ta'ala. Dernier chapitre qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas, inshallah, c'est toujours ce qui concerne les parents, mais plus particulièrement la mère, c'est Babu Bir al-Umm. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. Donc l'imam Bukhari رحمه الله تعالى dans son Adab al-Mufrad رحمة الله عليه, il dit j'ai passé un chapitre, on va d'abord faire le deuxième hadith sur le père, et puis on fera Babir al-Umm la prochaine fois, inshallah. Donc je répète, je me reprends. Haddathana Adam, qala haddathana Shu'bah, qala haddathana Ya'la ibn Ata, an abihi, an Abdullah ibn Umar, qala rida al-Rabbi fi rida al-Walid, wa sakhatu al-Rabbi fi sakhati al-Walid. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans l'Adab al-Mufrad, il dit Adam nous a dit, il dit, Shu'ba nous a dit, il dit, Ya'la ibn Ata nous a dit, d'après son père, d'après Abdullah ibn Umar, il a dit, la satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction du Père, et la colère du Seigneur est dans le mécontentement du Père. Maintenant, l'explication de ce hadith, par Cheikh Zayd Hafidhahullah Ta'ala, في هذا الحديث بيان ترتب بعز شأنه على سخط الأب على ابنه العاق ذكرا كان أو أنثى وما ذلك إلا لما له من الحق فالوالد هو الذي يتسبب في إيجاد الولد في طلب الزواج بأمه هو الذي كفله ورعاه هو في المهد ثم الطفولة ثم في سن الشباب وما بعده وهكذا الوالد يرعى ولده وإن كان كبيرا فإنه لا يقصر في رعايته أبدا لذا ترتب على دره رضا الله عز وجل على البار وترتب على العقوق السخط من الله لأن الجزاء عند الله من جنس العمل والمعروف عند الناس أن الوالد العاقل يرضى من ولده ولو باليسير من البر فلا يعنته ولا يوقعه في أسباب العقوق بل يجره دائما إلى مراد الله عز وجل ويجنبه ما فيه سخط الباري تبارك وتعالى وجل في علاه. L'explication du Cheikh Zayd, on s'arrêtera après ça, Inch'Allah. Il dit, Hafidhahullah, qu'Allah le préserve, il y a dans ce hadith la mise en évidence du fait que la colère d'Allah résulte du mécontentement du père envers son enfant désobéissant, qu'il soit un mâle ou une femelle. Et cela n'est qu'en raison de ce qu'il a commis, de ce qu'il a pardon comme droit, car le père est celui qui fut la cause de l'existence de l'enfant en demandant sa mère en mariage. Et il est celui qui s'est chargé de lui et a pris soin de lui alors qu'il était encore dans le berceau, puis pendant son enfance, puis dans sa jeunesse, et après, et ainsi de suite. Le père prend soin de son fils même s'il est grand. Il ne manque jamais à prendre soin de lui. Et c'est pour cette raison que la satisfaction d'Allah résulte de la bonté du fils obéissant envers son père. Et la colère d'Allah résulte de la désobéissance, car la rétribution auprès d'Allah est du genre de l'action. La rétribution auprès d'Allah est du genre de l'action. Et ce qui est connu chez les gens, que le père qui est doué de raison se satisfait de peu de la part de son enfant. Et ce qui est connu chez les gens, c'est que le père qui est doué de raison se satisfait de peu de la part de son enfant en termes de bonté. Et donc ne le contraint pas, et ne le fait pas tomber dans les causes de désobéissance, mais au contraire le tire toujours vers ce dont Allah le Très-Haut satisfait et l'écarte de ce en quoi il y a la colère d'Allah le Très-Haut. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la bonté envers nos parents et qu'il nous préserve d'être désobéissant envers eux. Et j'appelle mes frères et sœurs que chacun se réponde à lui-même, hein, que si quelqu'un d'entre nous se trouve qu'il a des manquements vis-à-vis de ses parents, ou carrément, qu'il est désobéissant, ou qu'il a carrément coupé les liens avec ses parents, ou bien qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une occasion de tauba, une occasion de repentir, et qu'il contacte ses parents, et qu'il demande pardon, et que les choses retournent comme elles étaient avant. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.